peu le contexte de l'Église et de la France en 1968 et les réactions à l'encyclique. Donc le 11 octobre 1962 s'ouvrait le Concile Vatican II. Guidé par le bon pape Jean, l'Église était enthousiaste. Benoît XVI se rappelait ainsi ce moment inoubliable. Il disait « Nous étions heureux et pleins d'enthousiasme. Le grand concile œcuménique avait été inauguré. Nous étions sûrs qu'un nouveau printemps de l'Église allait arriver, avec une nouvelle présence forte de la grâce libératrice de l'Évangile. » Puis ce furent donc les quatre années du Concile, années durant lesquelles l'Église approfondit son mystère dans une perspective missionnaire et d'ouverture au monde. Et lorsque le Concile fut clos, donc le 8 décembre 1965, il avait vraiment donné à l'Église un trésor, une boussole fiable, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, reprise également par Benoît XVI. Mais, si le Concile Vatican II avait vraiment donné une boussole fiable, la grande bataille pour son interprétation allait commencer. Le cardinal Siri, qui était archevêque de Gênes, dira le jour même de la clôture du Concile, le 8 décembre 1965, à des religieuses. « Mes chères sœurs, voyez-vous, le Concile s'est terminé aujourd'hui. Oui, il s'est terminé. Mais aujourd'hui va commencer la bataille de l'Église, car tout ce qu'on a tâché d'imposer au Concile et que le Saint-Esprit n'a pas permis, on va tâcher de l'imposer maintenant en interprétant mal le Concile. » C'était le jour de la clôture. Les années de l'après-concile furent donc difficiles pour l'Église et ce temps de crise, nous le savons bien, n'est pas terminé. Mais une date allait marquer cette période plus fortement, l'année 1968. Celle-ci se profilait depuis longtemps déjà, mais elle est une étape significative dans la crise que traverse encore notre monde et notre Église. Or, c'est en cette année 68 précisément, le 25 juillet, que le Saint-Pape Paul VI signait l'encyclique Humanae Vitae. Nous avons évoqué hier, Père Bernard l'a fait, ce texte qui demeure prophétique. Dans cette petite présentation, nous allons d'abord essayer de dégager quelques grandes lignes du contexte de l'Église, à ce moment-là, première partie. Dans une seconde partie, nous porterons notre regard sur le contexte français, un peu social et puis aussi ecclésial. Et puis enfin, nous tenterons de résumer les réactions à l'encyclique. Alors d'abord, le contexte de l'Église après le Concile. Ce contexte, nous le savons tous, fut très mouvementé. Alors, juste avant le Concile, les années 50 et 60 furent d'abord celles d'un monde en profonde mutation. Ce n'est pas l'objet ici de décrire tous ces changements, mais la situation géopolitique avec la guerre froide, ou encore la croissance exponentielle des progrès scientifiques, qui, comme le soulignait Jérôme Lejeune, n'a malheureusement pas été accompagné d'un progrès moral, éthique, proportionnel. Toutes ces choses-là ont eu des répercussions très profondes. Comme l'expliquait Joseph Ratzinger, la crise que connaît l'Église dans les années 60 et après le Concile coïncide avec une crise spirituelle globale de l'humanité, tout au moins dans le monde occidental. Et il ajoutait « On n'a pas le droit de présenter comme produit du Concile tout ce qui a bouleversé l'Église en ces années. » Ainsi, par exemple, nous le savons bien, on observe dès les années d'après-guerre, une chute des vocations qui n'ira qu'en s'accentuant. Un petit rappel, on ordonnait un peu plus de 1000 prêtres par an en France en 1950, un peu moins de 600 en 1960. Donc avant le Concile, le chiffre avait déjà été divisé par deux pratiquement. Et puis bon, on connaît la suite. Et cette année, on est tout content parce qu'on en ordonne 104, ou je crois quelque chose comme ça en France. Par ailleurs, les progrès de la science et de la médecine sont importants, pour le meilleur et pour le pire. C'est ainsi que Pierre Simon, qui fut un pionnier des méthodes contraceptives, qui est un des fondateurs du planning familial, et qui a été grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon écrira en 1979 « Le progrès de la science implique l'abandon des concepts anciens et la construction de systèmes nouveaux. Et dans ce même livre, la vérité n'est pas révélée, dogmatique, immuable, elle est évolution, fonction de la connaissance, c'est-à-dire fonction des apports de la science. Oui au respect de la vie revendiquée par les sociétés modernes, non à celle de Thomas d'Aquin. C'est clair. L'Église n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Et c'est peu dire que beaucoup de chrétiens ont été perméables à cet esprit du monde au cours de ces années, en confondant l'ouverture au monde que voulait le Concile Vatican II, en lui annonçant l'Évangile, et adoption de l'esprit mondain. Donnons quelques exemples de la manière dont l'Église va être secouée en ces années. Donc c'est évidemment très loin d'être exhaustif, mais quelques petits points qui montrent un peu ce qui se passe dans l'Église à cette période. En 1966, en Hollande, paraît le Nouveau Catéchisme, c'est son nom. Catéchisme pour adultes, qui enseignait plusieurs points en contradiction avec la foi, donc édité par les évêques en Hollande, ou en tout cas des points très ambigus, notamment concernant le péché originel, la virginité de la Vierge Marie, l'Eucharistie. Des plaintes étaient parvenues à Rome et après 2 ans de discussion, l'affaire n'était toujours pas réglée. Le cardinal Alfrink, qui était archevêque d'Utrecht, évoqua auprès de Paul VI toutes les difficultés qu'il y aurait à imposer des corrections. Finalement, les corrections verront le jour, mais elles seront publiées à part et non pas dans le catéchisme, autant dire qu'elles ne serviront à rien. L'année suivante, en 1967, Paul VI publie l'encyclique sur le célibat sacerdotal en réaffirmant la beauté et l'obligation dans l'Église latine du célibat des prêtres, qu'on est en juin 67. L'année suivante, le 18 mars, le cardinal Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles, écrit au pape pour lui demander, je le cite, de soumettre au prochain synode les questions du célibat des prêtres et de la régulation des naissances. C'est une manière assez claire de contester l'enseignement que vient de donner le pape Paul VI. L'année suivante, en plein cœur de l'année 1968, quelques jours avant de publier l'encyclique Humanae Vitae, Paul VI publie un autre texte très important de son pontificat. En la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, il donne le credo du peuple de Dieu, qu'on appelle parfois aussi le credo de Paul VI. Et par ce texte, le pape veut précisément réaffirmer solennellement des vérités traditionnelles qui sont mises à mal en ces années, au sein même de l'Église, donc le péché originel, l'existence des anges, la doctrine de l'Eucharistie, en particulier la dimension sacrificielle et la transsubstantiation, l'existence du purgatoire et de l'enfer. On peut noter que ce texte est cité 14 fois dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le texte de Paul VI qui y est le plus cité. Et puis enfin, dans le domaine de la morale, se fait jour une remise en cause de l'existence d'actes intrinsèquement mauvais, qui est une notion pourtant essentielle de l'enseignement de la morale catholique traditionnelle. Paul VI sera conscient de cette crise que traverse l'Église et il mettra en garde sur la recherche du nouveau en des termes qui sont extrêmement actuels. Le nouveau, disait-il dans une audience en 1969, le nouveau dans la vie catholique est une question extrêmement complexe. Limitons-nous à une remarque sévère, celle-ci. Le nouveau dans l'Église ne peut être obtenu par une rupture avec la tradition. L'esprit révolutionnaire a envahi beaucoup de chrétiens et des bons. La rupture que nous pouvons accepter est celle de la conversion. La rupture avec le péché, mais non avec le patrimoine de foi et de vie dont nous sommes les heureux héritiers, mais aussi responsables. Des théologiens et des philosophes mettent en garde vis-à-vis de cette situation. Jacques Maritain le fera avec une expression très forte en évoquant une fièvre néo-moderniste fort contagieuse auprès de laquelle le modernisme du temps de Pie X n'était qu'un modeste rhume des foins. Et le père Le Guillou, théologien dominicain, écrit en 1971 « Nous sommes dans un combat de la foi, aux prises avec une crise comme jamais l'Église n'en a connue, même pendant l'arianisme du IVe siècle qui avait servi de référence à Newman. Dans les hérésies antérieures, c'était un aspect de la vérité révélée qui était nié. Maintenant, c'est la vérité révélée comme telle qui est subvertie. C'est tout le mystère chrétien qui se trouve donc faussé de l'intérieur. » Comme l'avait annoncé le cardinal Siri, l'Église va connaître une déchirure très profonde et qui est toujours très actuelle aujourd'hui au sujet de l'interprétation du Concile Vatican II. Soulignons d'abord que la plupart des conciles ont été suivis de périodes complexes. Le cardinal Newman, qui est un illustre connaisseur des conciles, écrivait « Il est rare qu'un concile n'ait pas été suivi de beaucoup de confusion. » S'agissant de Vatican II, rappelons simplement la manière dont Benoît XVI a décrit ces tensions dans son célèbre discours à la Curie romaine du 22 décembre 2005. Les problèmes de la réception du Concile Vatican II sont nés du fait que deux herméneutiques, deux interprétations contraires, se sont trouvées confrontées et sont entrées en conflit. L'une a causé de la confusion, l'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. Et il a nommé ces deux herméneutiques, d'une part l'herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci, disait-il, a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. Ainsi, c'est une herméneutique de la rupture qui a hélas largement prévalu, et pour reprendre une autre audience qu'il avait donnée juste avant sa renonciation au clergé de Rome, le concile des médias, en quelque sorte, l'a emporté pour l'instant sur le concile réel, y compris dans de larges franges de l'Église. Or, comme le disait le cardinal Ratzinger, quelques jours après le schisme de Mgr Lefebvre, la seule manière de rendre crédible Vatican II, c'est de le présenter clairement comme ce qu'il est, une partie de l'entière et unique tradition de l'Église et de sa foi. Regardons maintenant, dans une deuxième partie, le contexte français de cette période. Pour cela, commençons par nous arrêter sur l'esprit de 1968, avant de nous interroger sur l'attitude de l'Église en France devant ces événements. Auparavant, mentionnons l'adoption de la loi Neuwirth, qui a libéralisé la contraception. Cette loi a été adoptée le 19 décembre 1967, juste avant la 68, et a été promulguée le 28 décembre en la fête des Saints Innocents. Pierre Simon, que nous avons cité tout à l'heure et qui en fut l'un des artisans, reconnaît que la loi a été préparée dans les loges maçonniques, il l'écrit et il y était, et il dit ceci: « Je suis alors conscient que le projet qui se prépare à être voté par les élus du peuple français implique, pour l'homme des temps modernes, une nouvelle définition du bien et du mal. » Il élabore une nouvelle morale. Voilà. La loi sur la contraception implique, et c'est le grand maître de la Grande Loge de France qui le dit, qui était médecin, une nouvelle définition du bien et du mal. Alors d'abord, l'esprit de 1968, dont l'année 68 a été très agitée en France, mais au-delà des contestations étudiantes, il s'agit en réalité d'un mouvement de fond teinté d'une très forte idéologie. On peut dégager en particulier, entre autres, deux caractéristiques très marquantes de ce mouvement, le refus de la norme et le refus de la transmission. Le refus de la norme, d'abord. Il est interdit d'interdire. Ce cri, dont l'énoncé même est une contradiction, est un de ceux qui résonnèrent en France en 1968 et révèle un refus de la norme et un rapport faussé d'une part à la loi et d'autre part à l'autorité. Il est une revendication d'autonomie absolue et un refus de tout ce qui se situe au-dessus de l'homme. Un autre slogan de 1968 disait « Ni Dieu ni maître, Dieu c'est moi ». Cette expression est révélatrice et permet de remonter à sa plus ancienne utilisation « Vous serez comme des dieux ». Nous reconnaissons le serpent de la Genèse qui pousse l'homme à se débarrasser des interdits, des commandements de Dieu, autrement dit des limites de notre condition de créature pour devenir autonome. C'est donc toute une conception de l'homme et de la vie qui est sous-jacente à ce mouvement de 1968. Où prend-elle sa source ? Dans le père du mensonge présent au jardin de la Genèse. Deuxième caractéristique, le refus de la transmission. Nous n'avons rien à transmettre et nous n'avons rien à recevoir. Nous nous créons nous-mêmes puisque nous sommes Dieu. C'est la philosophie de Jean-Paul Sartre. L'homme crée sa propre existence et n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Cela peut paraître abstrait, mais ça a en réalité des répercussions extraordinairement nombreuses et concrètes, en particulier dans le domaine de l'éducation qui va être très fortement touché par cette crise de 1968. Ainsi, François-Xavier Bellamy raconte qu'un inspecteur général avait répété à plusieurs reprises à des professeurs en formation « Vous n'avez rien à transmettre ». Ce qui importe n'est pas la transmission, mais l'expérience personnelle et subjective. Cette rupture de la transmission, qui est le signe d'un immense orgueil, parce que on ne veut rien recevoir pour ne rien devoir, et pour ne dépendre de rien ni de personne, cette rupture entraîne inévitablement une perte effrayante de repères que l'actualité nous dispense, hélas, d'illustrer. Or, cette rupture dans la transmission entraîne nécessairement une autre rupture, synchronique et dans le même temps. En effet, en rompant avec le passé et avec tout ce que nous devrions recevoir, nous nous privons d'un socle commun. Dès lors, nous n'avons plus rien à partager avec les autres, d'où une rupture aujourd'hui avec les autres hommes. Et en fait, c'est par voie de logique que ce refus de la transmission entraîne un individualisme terrible dont tout le monde aujourd'hui s'offusque, mais qui est en réalité un pur produit de cette idéologie de 1968. Ainsi, l'esprit de 68 qui exprime un refus de toute norme et de toute transmission est fondamentalement un refus de Dieu et de sa loi. Et on comprend aisément que ce contexte sera particulièrement défavorable à la réception de l'encyclique de Paul VI sur l'amour humain, et ce d'autant plus en raison de l'influence qu'aura cet esprit à l'intérieur même de l'Église en France. Alors regardons un peu la situation de l'Église en France dans ces années de l'après-concile. Arrêtons-nous d'abord sur un événement peu connu, mais qui reflète assez bien, hélas, l'atmosphère qui régnait entre Rome et l'épiscopat français dans son ensemble, c'est-à-dire de manière globale. Le 24 juillet 1966, le cardinal Ottaviani, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, envoie, on sait que c'était à la demande de Paul VI, une lettre au président des conférences épiscopales dans le monde, une lettre intitulée « Erreur doctrinale et danger pour la foi ». Il écrit dans cette lettre que, je le cite, « On doit regretter que de divers côtés soient parvenues des nouvelles alarmantes au sujet d'abus grandissants dans l'interprétation de la doctrine du Concile, ainsi que d'opinions étranges et audacieuses apparaissant ici et là qui troublent grandement l'esprit d'un grand nombre de fidèles. » Et ensuite, il énumère 10 erreurs doctrinales et morales qui affectent l'Église, donc en particulier la révélation, la personne de Jésus, l'Eucharistie, le péché originel et la théologie morale. Et donc Rome va demander, à travers le cardinal Ottaviani, aux conférences épiscopales de faire à chaque conférence épiscopale de donner un rapport sur ses erreurs. Quelques semaines plus tard, les évêques de France, réunis à Lourdes, étudient la réponse à donner à ce document. Monseigneur Veuillot, qui est alors évêque coadjuteur de Paris, dit ceci à la presse. Il n'y a pas actuellement de motif d'alarme. Rome dit il y a des choses alarmantes. On répond, il n'y a pas de motif d'alarme. De pessimisme. Et l'attitude des évêques veut être très constructive. Une certaine effervescence de la pensée dans le secteur profane a naturellement un retentissement dans le domaine théologique. Et au mois de décembre, la conférence épiscopale française envoie sa réponse officielle à Rome, dont voici quelques extraits. Sans doute, des évêques ont-ils regretté la forme donnée à cette interrogation? Ça commence bien. On répond à Rome qu'on regrette la manière dont. Il ne suffirait. Ensuite, on va faire la leçon. Il ne suffirait pas de dénoncer le désordre pour le faire cesser. Parfois, ce serait même l'aggraver. Le devoir doctrinal des évêques est positif. Il s'agit plus habituellement, dans ce qui se passe actuellement, de tendances, de courants, de malaises diffus, d'un certain flottement de la pensée. On n'est pas en présence d'un système cohérent. Bref, à considérer l'ensemble de la situation, il n'y a pas lieu de parler d'une résurgence du modernisme au sens historique du terme. Quant aux formules dogmatiques, si quelques évêques redoutent un danger de subjectivisme doctrinal, la plupart estiment que le danger n'est pas dans le relativisme dogmatique. Il faut souligner à nouveau l'importance d'une attitude positive en face de ces diverses tendances. Il s'agit moins de dénoncer le mal que de chercher le remède. Les symptômes de vitalité sont multiples et réconfortants. Fin de citation. On le voit, il ne s'agit pas d'une contestation frontale vis-à-vis de Rome, mais un refus clair, quoique formulé en langage ecclésiastique, de parler de crise. On ne veut pas s'opposer aux tendances mauvaises du moment. On refuse même de les voir, en tout cas de les nommer, et on choisit de mettre l'accent exclusivement sur le positif, sur le dynamisme et sur la vitalité de l'Église en France. L'avenir donnera tort à cette vision outrancièrement optimiste et Benoît XVI verra, lui, le plus grand danger dans le relativisme, dictature du relativisme. L'Église en France va être touchée, bien sûr, par les événements de 1968. Malheureusement, des membres de la hiérarchie s'impliquent dans les mouvements sociaux et politiques. C'est ainsi, c'est Joseph Ratzinger qui l'écrit, qu'au mois de mai 1968, je le cite, sur les barricades, il y avait des dominicains et des jésuites. Joseph Ratzinger. Un dominicain du Saulchoir, la grande maison de formation où il y avait le noviciat des dominicains, raconte que le drapeau rouge fut hissé pendant 15 jours sur le clocher du couvent, ce qui scandalisa les ouvriers qui travaillaient à l'ascenseur. Voilà. Bon, ce sont des petits faits, mais qui montrent quand même un esprit global.
C'est peut-être les couleurs du Sacré-Cœur.
C'était pour le Sacré-Cœur, merci. Monseigneur François Marty, qui avait été nommé cette année-là archevêque de Paris, avait lancé au moment des événements de mai 68 cette exclamation on ne peut plus démagogique, Dieu n'est pas conservateur. Un peu plus tard, le père Louis Bouilhet, accompagné du cardinal Danielou et du père de Lubac, sont allés rencontrer le cardinal Marty quelques années après, en lui disant que l'Église de France allait à volo à cause d'une interprétation totalement abusive du Concile, qui faisait table rase de la tradition antérieure. Le cardinal leur répondit: Après le Concile, nous avons pensé que l'avenir était au progressisme. Vous nous dites maintenant que le progressisme ne marche pas? Eh bien, nous reviendrons à l'intégrisme. Le père de Lubac faillit s'étrangler de colère et se récria scandalisé: Monseigneur, il ne s'agit ni de progressisme ni d'intégrisme, mais de la vérité. La vérité? Voilà bien un grand mot, un mot de théologien, mon père, répondit le cardinal Marty. Des pétitions contestataires de théologiens, de prêtres et de laïcs verront le jour aussi dans ces années, et Paul VI en sera très affecté. On a évoqué les répercussions de l'idéologie sur l'enseignement, le fait de ne pas transmettre. Alors on l'a évoqué dans la dimension, sa dimension profane de l'éducation, mais cette idéologie a une très forte influence dans l'Église elle-même, et en particulier dans la catéchèse. L'enfant ne doit pas apprendre ni recevoir, mais découvrir par lui-même et par sa propre expérience. Nous connaissons les résultats catastrophiques de ces méthodes dans l'éducation nationale. Les enfants ne savent plus lire, plus écrire, ils ne connaissent plus l'histoire de leur pays. Mais dans l'Église, on a cru bon d'appliquer pendant plusieurs décennies ces mêmes idées. Donc il ne fallait plus enseigner de vérité, mais favoriser l'expérience et la découverte. Le résultat est analogue, et Benoît XVI pourra parler d'analphabétisme religieux. Et il y a derrière une vraie idéologie, c'est-à-dire un refus de transmettre. Je vous lis cette petite citation qui est dans un livre du cardinal Martini, qui disait, je crois que c'est son dernier livre, « Nous ne pouvons rien enseigner aux jeunes. Nous ne pouvons que les aider à écouter le maître intérieur. Les prenons-nous au sérieux en tant que partenaires égaux, ou bien voulons-nous les instruire parce que nous les considérons comme stupides ou dans l'erreur ?» Comme si la mission d'enseignement donnée par Jésus aux apôtres, et que Jésus a pourtant lui-même pratiqué abondamment, était simplement adressée aux gens stupides ou dans l'erreur. Bon, on connaît l'histoire, je n'y reviens pas, du catéchisme Pierre Vivante, qui paraîtra aussi dans les années 80, et qui est un fruit, si on peut parler de fruit, de ces idées. Lorsque le cardinal Ratzinger, on avait fait toute une session là-dessus il y a quelques années, viendra donner sa conférence sur les sources et la transmission de la foi à Paris et Lyon en 83, il dira « Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépassé le genre même du catéchisme. » Et il dénoncera « les misères de la catéchèse nouvelle ». Sur le plan de la morale, le « il est interdit d'interdire » déteint lui aussi dans l'Église, au point que certains vont arriver à redéfinir ce qu'est la conscience. La conscience serait, selon eux, un organe de décision, pouvant donc définir le bien ou le mal dans la situation particulière où je me trouve, et non plus le lieu de la rencontre avec Dieu pour juger, et non pour décider, de ce qui est objectivement bien ou mal. Jean-Paul II dénoncera plus tard dans l'encyclique Veritatis Splendor cette notion faussée de la conscience. Pour conclure cette seconde partie, je dis à bien des égards, le tableau dressé pourra paraître assez sombre. De fait, il l'est quand même en bonne partie. Si l'on a présenté ainsi ce qui est la réalité, ce n'est pas pour critiquer, mais pour mieux comprendre le contexte de la publication d'Humanae Vitae, pour mieux pénétrer la souffrance du pape Paul VI, et pour mieux admirer son courage lorsqu'il prit la décision de donner à l'Église l'encyclique, de même que le courage de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui entreprirent de travailler après Paul VI pour raffermir l'Église dans la foi vécue en vérité. Alors abordons maintenant dans notre troisième partie la réception d'Humanae Vitae, donc, que Paul VI signait le 25 juillet, on l'a dit hier, et rendait public le 29. On aura compris que le contexte était on ne peut plus défavorable. Père Bernard a souligné hier aussi que l'encyclique n'était pas d'abord un non, mais, comme le soulignait Joseph Ratzinger, elle rappelait trois options essentielles de l'Église: une attitude positive envers la place de l'enfant dans l'humanité, la relation intrinsèque entre sexualité et procréation, et le danger réel de traiter de vrais problèmes moraux par de simples moyens techniques. Donc Paul VI réaffirme l'illégitimité des méthodes contraceptives artificielles, tout acte matrimonial doit rester ouvert à la vie, et rappelle qu'un acte conjugal rendu volontairement infécond est intrinsèquement déshonnête. Alors voyons d'abord la réception dans l'Église universelle. C'est peu dire que la réception d'Humanae Vitae a été difficile. Pour avoir une vision plus développée théologiquement de ces réactions, nous vous invitons à lire l'excellent livre de Mgr Livio Mellina, dont on vous reparlera ce soir, qui est dans le couloir derrière, que vous pouvez déjà prendre, et dont quelques pages rapportent en les expliquant précisément les déclarations de certaines conférences épiscopales. Contentons-nous ici donc de mentionner quelques réactions. Au total, ce sont 33 conférences épiscopales qui ont publié des déclarations sur Humanae Vitae. La conférence épiscopale canadienne, par exemple, écrira, alors après avoir réaffirmé son union au pape, « Nous nous déclarons unis au peuple de Dieu et nous vivons avec lui les difficultés que plusieurs éprouvent à comprendre cet enseignement, à l'assimiler et à le mettre en pratique. » Selon les principes reconnus de la théologie morale, dans la mesure où ces personnes auraient fait un effort sincère pour se conformer aux directives données, sans toutefois y parvenir, elles peuvent avoir la certitude qu'elles ne sont pas coupées de l'amour de Dieu, dès lors qu'elles choisissent honnêtement la voie qui leur semble la meilleure. C'est une manière de prendre le contre-pied de l'enseignement du pape. Les conférences épiscopales allemandes et belges iront dans le même sens, et une déclaration s'opposant frontalement à l'encyclique sera publiée par le père Charles Curran de l'Université jésuite de Washington et signée par plus de 600 théologiens et professeurs de séminaire. 3 ans plus tard, le cardinal Suenens dénoncera, je le cite, « la tendance centralisatrice, juridique, statique, bureaucratique qui prévaut à Rome ». Et il demandera que les grands textes ne soient plus élaborés par le pape seul, mais en collaboration avec tous les évêques. D'autres réactions seront, elles, positives. Yves Chiron note que plusieurs épiscopats européens en Irlande, en Pologne, en Espagne, ont adhéré à l'encyclique. Significativement, écrit-il, les épiscopats des pays du tiers-monde ont eux aussi accueilli très favorablement l'encyclique. Mgr Tiandoum, archevêque de Dakar, se fera lui aussi l'écho du « oui » de l'Afrique à l'appel du Père commun des fidèles. Il faut écouter les évêques africains. Paul VI fera remercier les évêques espagnols dans une lettre qu'il demandera des proportions des réactions des évêques du monde. Yves Chiron ajoute cette note intéressante. Le père Philippe Kaufmann, bénédictin américain, a étudié les déclarations des évêques du monde entier dans les jours et les semaines qui ont suivi la publication de l'encyclique. 262 évêques ont accepté totalement l'enseignement d'Humanae Vitae. 866 ont cherché à atténuer la portée de l'enseignement pontifical et 428 se sont montrés hésitants ou équivoques. Il faudrait conclure de cette évaluation statistique que seulement 17% des évêques catholiques, en 1968, ont donné un assentiment sans réserve à l'enseignement pontifical sur la contraception. En France, sans surprise, le docteur Pierre Simon, déjà cité, se fait l'interprète de la franc-maçonnerie. En condamnant les méthodes contraceptives avec l'encyclique Humanae Vitae, Paul VI avait déclenché, écrit-il, un combat d'arrière-garde. La presse nationale ira massivement dans le même sens. François, c'est Yves Chiron qui fait une petite recension, François dira que Paul VI a brisé un espoir et plonge beaucoup de catholiques dans le désarroi. Dans Le Monde, c'est intéressant, Jean-Marie Popper estime que Paul VI s'est exprimé contre le sentiment du collège des évêques et en dehors de lui, et que la porte de Vatican II est à présent fermée. Là, on s'est fait rappel à un soi-disant esprit du Concile pour refuser toute norme. Je ne cite pas le journaliste catholique, c'est comme ça que c'est marqué Jacques Duquesne, il y a marqué catholique, mais... Et dans le Nouvel Observateur, on parlera du pari de Paul VI en disant 4 ans d'hésitation pour condamner des siècles de progrès. Voilà un peu le genre de commentaires qui inonde la presse nationale. Quelques penseurs réagissent différemment. Nouvel Observateur encore, c'est pas peut-être une lecture que nous faisons souvent, mais Maurice Clavel écrira dedans « L'encyclique n'est pas une opinion du pape, mais l'application évidente à un problème contemporain du dogme chrétien. Paul VI a frappé un très grand coup historique et l'encyclique apporte un souffle d'air frais. Les évêques de France vont mettre du temps à publier une déclaration qui paraîtra, donc l'encyclique est publiée signée le 25 juillet et publiée le 29, les évêques de France donneront une déclaration le 8 novembre. En voici deux extraits. Au numéro 3 d'abord, « Nous ne saurions prêter trop d'attention à la souffrance de conscience divisée entre leur volonté de fidélité à l'enseignement du pape et les difficultés quasi insurmontables auxquelles elles se heurtent, ainsi qu'un malaise de ceux qui, au terme d'études sérieuses, étaient parvenus à des conclusions différentes. » Et un peu plus loin, au numéro 16, « La contraception ne peut jamais être un bien, elle est toujours un désordre, mais ce désordre n'est pas toujours coupable. Il arrive en effet que des époux se considèrent en face de véritables conflits de devoirs. À ce sujet, nous rappellerons simplement l'enseignement constant de la morale. Quand on est dans une alternative de devoirs, où, quelle que soit la décision prise, on ne peut éviter un mal, la sagesse traditionnelle prévoit de rechercher devant Dieu quel devoir, en l'occurrence, est majeur. Les époux se détermineront, au terme d'une réflexion commune, menée avec tout le soin que requiert la grandeur de leur vocation conjugale. » Le lendemain de la publication de cette note, le 9 novembre, une note de l'agence France Presse annonçait « On se félicite au Vatican de la courageuse prise de position de l'épiscopat français sur Humane Vitae. » Et l'AFP, qui est toujours très bien informé, hein, l'AFP ajoutait que pour le Vatican, la note des évêques de France, je cite, « correspond point pour point à l'esprit et à la lettre du document pontifical ». On ignore d'où venait cette information. Ce que l'on sait, c'est qu'elle fut démentie dans l'Osservatore Romano, qui rectifiait dans son édition du 16 novembre, en écrivant « Les déductions que certains journaux et périodiques ont tirées de ce document des évêques de France et d'autres documents similaires vont sans aucun doute au-delà des intentions des évêques qui, dans leur déclaration, réaffirment leur adhésion à l'enseignement de l'encyclique. D'autres déductions laissent même entrevoir la possibilité d'une interprétation bivalente qui finirait par invalider la valeur contraignante de la loi. » Le cardinal Jacques Martin, qui était très proche de Paul VI, dira que même des évêques avaient déclaré publiquement leur désaccord avec l'encyclique et l'accord de certains équivoques provoqua un démenti de l'Osservatore, comme ce fut le cas pour la France. Un communiqué de l'agence France Presse avait assuré que le document des évêques de France sur Humane Vitae correspondait point par point au désir du Vatican. L'Osservatore Romano du 16 novembre dut démentir. Bon, il y a eu quand même quelques réactions positives, aussi dans l'épiscopat français. Le cardinal Renard, archevêque de Lyon, écrira « De nombreux fidèles de l'Église sont reconnaissants au pape d'avoir eu le courage de parler. » Et il y a eu, ça et là, quelques initiatives, notamment dans les diocèses de Lyon et de Luçon, avec des conférences, des réunions pour faire connaître et pour expliquer le contenu de l'encyclique. Notre père fondateur, père Bernard le rappelait l'autre jour, à Saint-Pierre de Colombiers, rédigea une lettre à Paul VI et la fit signer par les amis de la communauté pour remercier le pape de son courage et pour lui exprimer une totale adhésion à l'encyclique et le soutenir. Paul VI souffrit beaucoup de la contestation qui eut cours dans l'Église. Voici ce qu'il dit dans la première audience qui suivit la promulgation d'Humane Vitae. « Jamais, comme en cette conjoncture, nous n'avions senti le poids de notre charge. Nous connaissions les controverses suscitées par ce problème si important, avec tant de passion, mais aussi avec tant d'autorité. Nous percevions les voix puissantes de l'opinion publique et de la presse. Nous écoutions les voix plus faibles, mais plus pénétrantes pour notre cœur de père et de pasteur, de tant de personnes, de femmes respectables spécialement, angoissées par ce problème difficile et par leur expérience encore plus difficile. » Et il concluait « Nous avons pesé les conséquences de l'une ou de l'autre décision et nous n'avons pas eu de doute sur notre devoir de prononcer notre sentence dans les termes exprimés par la présente encyclique. Cependant, Paul VI confiera au cardinal Jacques Martin au sujet d'Humanevitae, c'est mon Gethsémani. Et le pape, qui publiait avec Humanevitae sa 7e encyclique, depuis 64, ne publiera plus une seule encyclique jusqu'à sa mort en 1018. L'encyclique continue, 50 ans plus tard, à être l'objet de dissensions. Néanmoins, il est frappant de voir que les lieux d'église où elle a été acceptée, enseignée et mise en œuvre sont des lieux vivants. Les deux témoignages qu'on a entendus hier nous le montrent. Benoît XVI avait dit en 2008, pour les 40 ans de l'encyclique, « La vérité exprimée dans Humanevitae ne change pas ». Cependant, la bataille pour la fidélité à l'encyclique demeure un défi. Père Bernard a évoqué hier le congrès qui a été organisé en 2023, l'année dernière, à Rome, par la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune, et le très bel enseignement qu'avait donné le cardinal Ladaria sur Humanevitae, en rappelant ce qu'avait dit Benoît XVI, « La vérité exprimée dans Humanevitae ne change pas ». Quelques heures après cet enseignement du cardinal Ladaria, le site d'information du Vatican, Vatican News, publiait une interview de Mgr Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie, qui prenait de manière feutrée mais claire le contre-pied du cardinal Ladaria. Vous lirez, je ne vais pas vous lire tout le texte du contenu, vous l'aurez dans les actes écrits. Mais à tel point que le journal La Croix écrivait, je cite l'article de La Croix le lendemain, « Bataille au Vatican sur la morale sexuelle ». Deux hauts responsables du Vatican ont exposé vendredi 19 mai des visions très différentes de l'encyclique Humanevitae, un texte crucial, de la morale de l'Église catholique sur la sexualité, une confrontation d'idées très rare en public. Nous voudrions conclure cette présentation par quelques remarques importantes pour aujourd'hui. Tout d'abord, il convient de rappeler paisiblement mais avec fermeté que l'enseignement d'Humanevitae fait partie de la doctrine de l'Église en une matière grave. Et donc cet enseignement n'est absolument pas facultatif, ni pour les pasteurs, ni pour les fidèles. Jean-Paul II disait en 1987 « Ceux qui se placent en contradiction ouverte par rapport à la loi de Dieu authentiquement enseignée par l'Église entraînent les époux sur un mauvais chemin. Rien de ce qu'enseigne l'Église sur la contraception n'appartient à une matière susceptible de libre discussion de la part des théologiens. Enseigner le contraire revient à induire en erreur la conscience morale des époux. » Deuxième remarque, c'est une question qu'on entend parfois, Paul VI savait que ce document susciterait des oppositions, même s'il n'en prévoyait peut-être pas toute l'étendue. Pourquoi alors l'a-t-il publié? On pourrait se poser la question aussi, Jésus savait en donnant le discours du pain de vie qu'il susciterait des oppositions et que beaucoup de ses disciples l'abandonneraient en disant « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jean 6, 60. Or, il devait dire cette vérité. Voici quelques lignes de ce qu'écrit le cardinal Müller dans son dernier livre. Non, c'est pas le dernier, c'est un plus tôt. Les prophètes des temps bibliques ont été persécutés et Jésus lui-même a averti ses disciples. On dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Dans ces conditions, pourquoi les évêques, en tant que successeurs des apôtres, se mettent-ils en tête que la cause des persécutions et des calomnies est seulement à chercher dans une mauvaise politique médiatique à laquelle il serait facile de remédier en améliorant leur talent de communicateur? Donc parfois, on sait qu'on va au-devant d'opposition, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre la forme, mais il faut y aller. C'est ce que demande saint Paul à son disciple Timothée, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Enfin, dans un monde encore corrompu par les idéologies de 1968, nous devons, courageusement et joyeusement être les témoins de la beauté de cet enseignement de l'Église, réaffirmé par Paul VI, c'est ce qu'ont fait Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, et en rappelant que l'Église est exigeante parce qu'elle aime, et que tout en énonçant les exigences de l'amour vrai, l'Église transmet, en particulier par les sacrements, la grâce pour vivre ce qui est demandé. C'est la prière que saint Augustin adressait à Dieu, « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux ». Et c'est pour ça, on disait hier, à l'homélie, Jean-Paul II le dit dans l'encyclique Veritatis Splendor, il n'y a rien qui ne soit au-dessus des forces de l'homme, puisque Dieu nous donne ses forces pour vivre cette loi qu'il nous demande. Ainsi, le plus sûr antidote, nous l'avons entendu dans ses premiers témoignages, pour résister aux idéologies de 1968 est de vivre une authentique vie de famille chrétienne. Concluons en faisant nôtre ces mots du cardinal Sarah. Je veux dire à tous les parents chrétiens qu'ils sont la gloire de l'Église du XXe siècle. Votre témoignage est parfois un martyre quotidien. Vous devez affronter le mépris du monde quand vous choisissez de donner la vie. Vous devez affronter la précarité et l'incertitude du lendemain. Mais votre mission est grande. Vous portez l'espoir du monde et de l'Église. Les sourires et la joie de vos enfants sont votre plus belle récompense. Soyez ferme, accrochez-vous à la foi. Par votre fidélité à l'enseignement du Christ sur le couple et la famille, par vos marques d'amour quotidiennes, vous semez des germes d'espérance. Bientôt se lèvera la moisson. »